m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet, Michael Goncalves, Elsa Olaizola.
Bonjour, bonsoir. Ça a l'air tellement banal de le rappeler, et pourtant c'est vrai, s'il est un art par excellence qui n'a pas de frontières, c'est bien la musique. Et ce n'est pas notre invité d'aujourd'hui qui me démentira, car sa naissance, son parcours personnel et musical, ses textes, ses compositions et ses interprétations le chantent à nos oreilles. Anissa Ben Salah est une exploratrice de monde, de culture, de musiques et de sons. Elle nous livre un deuxième album qui résonne comme un disque monde, métissé, qui puise dans ses origines familiales, son nomadisme de toujours et sa formation en chant lyrique et en musicologie. Sauvage, le deuxième album d'Anissa Ben Salah est sorti chez Ovastand et vous m'en direz des nouvelles.
Sous la peau de Philia, une bête se lave et croit. Sous la peau de Philia, elle s'éveille et déterre les lois. Dans le noir, où sauvage ne porte aucun visage.
Bonjour Anissa Ben Salah.
Bonjour.
Sauvage, c'est le titre qui donne son nom à ce deuxième album. Sauvage, il faut le préciser tout de suite, ça s'écrit S-O-V-A-J. Pourquoi est-ce que vous l'avez appelé ainsi cet album?
Alors, Sauvage, ça vient d'un concept qui vient d'un livre qui m'a beaucoup marqué ces dernières années, qui s'appelle « Femme qui court avec les loups » de Clarissa Pinkola Estes.
Que vous citez d'ailleurs sur la pochette de l'album.
Exactement. C'est un livre qui parle des archétypes de la figure féminine dans des contes, à travers des contes du monde entier. C'est un livre un petit peu, on va dire, psychologique, psychanalytique. Et en fait, à l'intérieur donc de ce livre, il y a le concept de la femme sauvage, qui est en fait le terreau de créativité, là où, en fait, au fond de nous, tout est permis. C'est un petit peu l'inconscient, là où on va chercher, là où les choses sont un petit peu noires, un petit peu difficiles, un petit peu confuses. Et c'est ce terreau-là que j'ai trouvé très intéressant, parce qu'effectivement, il est très souvent source de créativité.
Vous êtes une femme sauvage, Anissa Ben Salah?
Pas du tout. Alors, dans la vie courante, pas du tout sauvage. Bien au contraire, je suis assez discrète.
Alors, sauvage, ça veut dire qui vit en liberté, dans la nature. Ça s'applique souvent davantage aux animaux qu'aux êtres humains. Quand on dit d'un être humain qu'il est sauvage, c'est plutôt péjoratif, hein, dans la tête de beaucoup de gens, dans le sens primitif, pas vraiment civilisé. Comment est-ce que vous le percevez, vous, ce mot de sauvage que vous écrivez? Donc, S-O-V-A-J, j'insiste, vous n'avez pas expliqué d'ailleurs cette petite différence orthographique.
Le S-O-V-A-J, ça c'est vraiment de la pure coquetterie. C'est aussi parce que j'avais envie que le mot soit facilement lisible dans plusieurs pays différents. Et donc, du coup, si je l'écrivais en français, ça aurait été un petit peu plus compliqué à prononcer au Brésil, par exemple. Je pensais au Brésil, surtout au Brésil. Voilà. Donc, c'est juste de la coquetterie, hein. C'est rien de plus. Il n'y a pas de mystère.
D'accord. Mais le mot sauvage, j'insiste, il est vraiment positif, hein, dans votre tête. Parce
Pour
que
moi,
sauvage, c'est la liberté, c'est la créativité.
Exactement. C'est l'espace de liberté. C'est l'espace où quasiment tout est permis. Enfin, tout est permis.
Donc la liberté de circuler, la liberté de voyager, la liberté de penser également. J'évoquais le nomadisme dans la petite présentation au début. Le nomadisme, c'est vraiment dans vos gènes, Anissa Ben Salah?
Complètement. Ça m'a forgée. J'ai eu une enfance où je devais déposer mes valises et refaire mes valises, tout le temps. Et ça, en plus d'une origine métissée.
Donc, père algérien, mère brésilienne.
Oui.
Et c'est au gré des activités de vos parents que vous avez vous-même voyagé.
Tout à fait. C'est ça. J'ai suivi mes parents.
Mais vous êtes née nomade ou vous l'êtes devenue par la force des choses?
Je suis née nomade. Je suis née en Haïti. Mes parents ne sont pas haïtiens du tout. C'est juste que leur travail les a portés jusqu'à ce pays. Et je suis née là-bas. Voilà. Et j'ai poursuivi. Après, je suis allée au Sénégal. Après, je suis allée au Liban, à Beyrouth, et je suis venue m'installer en France à l'âge de 14 ans, à Paris.
Alors, on va revenir précisément sur ce parcours. On va commencer par la première étape, par Haïti, là où vous avez donc vu le jour, un pays vraiment singulier. Vous lui consacrez une chanson hommage sur cet album, Mon île.
Mon île, mais moi.
Ces vagues déferlent dans ma gorge la nuit. Ces rives crachent mes mots enfouis. Il est des histoires et des mystères qui grincent entre les jambes de ma terre. J'ai la sève noire. Je cherche le son et l'odeur de ses pluies, le goût de la canne et du sein de ses nuits. J'ai vu des visages se défaire. Mon île de se rendre à la colère. J'ai la sève noire.
C'est la chanson donc Anissa Ben Salah que vous consacrez à Haïti, la terre qui vous a vu naître, un endroit incroyable, un endroit plein d'histoires, souvent douloureuses, plein de souffrances, en même temps plein d'énergie et d'une force vraiment incroyable. Hein. Vous avez passé en Haïti donc les 5 premières années de votre vie. Vous étiez donc toute petite. Vous êtes retournée depuis là-bas ?
Je ne suis pas retournée en Haïti parce que mon lien avec Haïti est très complexe. Évidemment, c'est une terre qui m'a marquée au fer rouge. Et c'est à 5 ans, j'ai eu le sentiment qu'on m'arrachait vraiment de ma terre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai du mal à retourner jusqu'à aujourd'hui.
Mais vous y retournerez un jour.
C'est sûr, mais il va falloir que je fasse un gros travail avant pour avoir la force d'y retourner sans que ce soit quelque chose qui me ravage.
Mais qu'est-ce que vous avez gardé d'Haïti ?
Alors, j'ai gardé des souvenirs d'enfance, évidemment, des images qui sont assez limitées, hein, j'en ai 5 très claires dans la tête qui m'en restent. J'ai gardé le souvenir aussi d'une mère adoptive, une femme haïtienne merveilleuse. Et ça aussi, ça fait partie de mon histoire avec Haïti. C'est que ça passe par un lien. Presque d'adoption avec cette femme.
Oui, vous étiez marqué au fer rouge, c'est l'expression très très forte, presque ouais. Violente, très haïtienne finalement, ouais. Quelque part, hein, dans l'esprit en tout cas, que vous venez d'utiliser. Est-ce que ça vous a donné une force, un tempérament particulier ? Est-ce que l'artiste que vous êtes devenu est né aussi en Haïti ? Pas la petite fille, l'artiste.
Alors oui. Oui, parce que je pense que la culture haïtienne, notamment la part d'histoire autour de la culture vaudou, ça m'a marqué. Non pas à travers la pratique, parce que je ne pratique pas le vaudou, mais ce sont des choses qui sont restées en moi, comme des djinns, comme des ce qu'on appelle aussi au Brésil les orishas, comme des entités qui nous guident en fait, des forces. Des émotions. Moi, je traduis ça par des émotions, mais j'ai toujours eu le sentiment d'avoir des orishas, des djinns, des entités vaudou autour de moi.
Alors, vous quittez Haïti à 5 ans, direction le Sénégal, on change de continent. Il y a aussi du vaudou en Afrique, mais vous n'allez pas au Bénin, où effectivement le vaudou est très très présent. Mais au Sénégal, quelle est la part d'africanité en vous, Anissa Ben Salah ?
Elle est dans ma musique. Elle est dans ma musique parce que... Je remarque que toutes les influences que j'ai reçues au niveau musical ont toujours une chose en commun, c'est l'Afrique. Par exemple, dans la musique brésilienne, je suis toujours attirée par les afro-samba, par les musiques à racines plus africaines. En Algérie, au Maghreb, c'est la même chose. Je suis plus attirée par les musiques traditionnelles diwan, gnawa. Il y a toujours l'Afrique au centre. Le jazz, c'est la même chose. Je suis toujours plus attirée par un jazz un petit peu plus modal, plus afro-jazz.
Alors, c'est au Sénégal que vous entamez une formation classique, une formation en chant lyrique. Vous vouliez chanter de l'opéra ?
Pas du tout. En fait, j'ai commencé avec des cours particuliers. J'avais 8 ans. C'était juste des cours particuliers. Que j'avais trouvé, enfin qu'on avait trouvé, mais disons que le chant classique vient un petit peu plus tard au Liban.
Donc autre étape de votre vie. C'est important de vous former musicalement parlant, parce que beaucoup d'artistes, de chanteurs, de musiciens sont des autodidactes. Vous êtes passé par l'université, par Paris 8, études de musicologie. C'était important justement d'étudier aussi la musique et pas seulement de la sentir.
Alors, si je devais donner ma propre réponse, je dirais absolument pas. C'est pas nécessaire de passer par là. Il y a d'excellents musiciens qui ont révolutionné plein de choses sans passer par ça. Après, je l'ai fait parce que mes parents, et notamment surtout mon père, avaient cette exigence que si je m'investissais dans une vie comme ça, comme celle-là, qui est difficile, il fallait au moins que j'aie des bases solides pour affronter les choses. Et donc voilà, en tout cas la musicologie, Paris 8, le master en musicologie, tout ça, c'était un contrat, disons, avec mon père, surtout. Et par contre, pour le chant, prendre des cours de chant, ça oui, c'était nécessaire, parce que c'est important de travailler le chant quand on a envie d'en faire son métier et d'être aussi, se sentir aussi légitime. Tout simplement.
La voix, est-ce que c'est un instrument comme les autres ?
C'est un instrument pas comme les autres, je dirais. Parce que dans la voix, disons que il y a la charge émotionnelle qu'on retrouve aussi dans les instruments, évidemment. Mais la voix doit porter aussi, très souvent, des textes, des mots. Et ça, c'est différent. Disons qu'il y a deux couches à transmettre, les mots et la mélodie. زيدني حبا أبحث عن نجمة في كل خطوة أبحث عن نجمة تحملني لفجر جديد
Nejma, nouvel extrait de l'album Sauvage de notre invité Anissa Bensala. Là, on n'est plus en français, mais en arabe. Alors, il y a le papa algérien, il y a aussi eu le Liban, hein, Beyrouth. Alors, vous dites, avec l'accent arabe, on dit comment ?
Beyrouth.
Voilà, la ville martyrisée hein, par la guerre civile. C'est un peu la ville de votre adolescence. Là aussi, on n'en revient pas indemne de cette ville-là.
Ah non, non, non. Quand je suis arrivée à Beyrouth, c'était au début des années 90. Et je me souviendrai toute ma vie de cet atterrissage dans la ville. Et quand on a commencé, donc nous étions, mes parents, ma sœur et moi, dans le taxi, en train d'arriver au centre-ville et de voir en fait ce centre rempli de bâtiments troués. De marques d'obus sur les routes, ça a été un choc, un vrai choc. Et je me souviens qu'on est arrivé dans un appartement et les rideaux étaient tirés. J'ai ouvert les rideaux avec ma mère et de l'autre côté, il y avait une vue quasiment insoutenable où les immeubles étaient complètement effondrés. Et j'ai eu peur. Je me suis dit, bon, allez, on va rester quelques années ici, il faut comprendre ce qui s'est passé.
Alors sur cet album, il y a 9 chansons Anissa Ben Salah, il y en a 3 en arabe, 3 en français, 3 en portugais brésilien. Égalité parfaite, fallait pas te faire de jaloux.
Alors c'est du pur hasard. Mais si je me trompe pas, il y en a quatre.
Il y en a 4 en arabe. Ouais, vous savez mieux compter que moi. En plus, vous avez fait des études de musicologie, un petit peu de mathématiques aussi. Bon, voilà. Mais chanter dans ces 3 langues, cette fois il y en a 3. Hein,
oui, d'accord. Oui,
chanter
oui.
dans ces 3 langues là, oui. c'est 3 identités ou c'est une seule identité au final?
C'est une seule identité. Ces langues coexistent à l'intérieur de moi. Par contre, je pourrais entendre le fait que ça fait peut-être bizarre d'entendre 3 langues dans un album. Ça, on me l'a d'ailleurs déjà dit. Mais c'est le résultat et le fruit de mon parcours et du fait que je suis métisse et nomade. Je peux pas dissocier ça. De la musique que je fais.
Votre identité musicale, c'est quoi? C'est le métissage? C'est la cohabitation? C'est la fusion? Quel est le meilleur terme, selon vous?
Je dirais le métissage, parce que je ne suis pas consciente, quand j'écris la musique, je ne suis pas consciente, en fait, de ce qui me vient de ma part algérienne, de ma part brésilienne, de ma part française aussi. Je ne suis pas trop consciente de ça, en fait. C'est juste que j'écris. Donc c'est un petit peu comme le métis, entre guillemets, quand il évolue, en fait. Il se pose pas forcément de questions sur ce qu'il est. C'est plutôt les autres qui lui renvoient l'image du métis, en fait. Du fait qu'il est un petit peu de ça, mais pas tout à fait ça.
Que eu olho para a sua juba, cada vez que eu vejo seu brilho ao luar, só posso amor deter. Seu olhar intenso do norte da África vem, cabeça nas nuvens, só posso louro.
Malou dans VMDN sur RFI. Merci beaucoup Anissa Ben Salah d'avoir été des nôtres. Je rappelle que votre album Sauvage est donc disponible chez Ovassand et je précise que vous serez en concert le 13 juillet à Enghien-les-Bains, le 24 août à Dijon en Bourgogne, le 19 octobre à Lorient en Bretagne et puis une date parisienne sans doute à la rentrée. On va suivre ça de près. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous m'en direz des nouvelles. Main d'œuvre. Main d'œuvre.
Fanny Blechner.
Aujourd'hui, je suis
un passeur de lumière. Je m'appelle Emmanuel Andrieux, je suis maître verrier à la Maison du Vitrail. Quand le client vient, je lui propose de regarder les books. Et là, il va toujours ressortir les mêmes graphismes que la personne va vraiment apprécier. Et à moi de créer la maquette. Quand le dessin final est terminé, donc c'est toujours une maquette au dixième, toujours à la main. Là, je vais le proposer au client. Donc ce dessin, c'est un dessin plutôt art déco, assez rigide, donc en mélange de rectangles, de carrés, de formes diverses, assez géométriques, mais j'ai rajouté des éléments un peu plus floraux, ce sera des verres transparents, mais avec des matières assez prononcées ou justement très, très, très douces, et ensuite agrémentées de roses, de verts. Donc je fais l'agrandissement à taille réelle sur du calque que je vais reporter ensuite sur du papier bulle. Ce qu'on appelle du papier bulle, c'est un papier un peu épais, type papier canson, où là je vais pouvoir avoir, je vais tracer simplement mes traits. Non plus tout le dessin, mais vraiment que les traits de coupe. maintenant que j'ai choisi tous mes verres, je pose mes calibres sur les verres sortis. Et là, je vais commencer la coupe. Donc, il faut absolument, pour la coupe, suivre le calibre au millimètre près. On est toujours à la recherche de la perfection. Et un millimètre de trop ou un millimètre de moins peut être extrêmement handicapant ou en tout cas, on peut ne pas pouvoir fermer le vitrail et ne pas pouvoir le terminer. Alors, pour couper le verre, j'utilise ma molette. C'est une petite roulette en carbure de tungstène. Vous pouvez faire des milliers de kilomètres. Voilà, donc là maintenant j'ai terminé toute la coupe, donc il va falloir simplement que je remette tous les verres sur mon calque de départ, ce qui va me permettre ensuite de commencer le montage. Ici c'est un montage au plomb, le plomb c'est on enchasse nos morceaux de verre dans des baquettes de plomb, et ensuite on va souder à chaque intersection et on va mastiquer aux deux faces. On est amené aussi à faire de la peinture, que ce soit aussi bien en création qu'en restauration. Donc évidemment, l'intérêt de faire un vitrail n'est pas de le laisser à l'atelier, ce qui est d'ailleurs le plus... j'ai jouissif dans la tête, ça va, je vais pas dire ça, mais ce qui est le plus intéressant, en tout cas ce qui nous procure le plus de d'émotions finalement, c'est de voir le client recevoir le vitrail chez lui. Donc là, on va faire la pose et on va aller poser donc le vitrail. Donc là, ça sera chez un particulier, chez une cliente. Mais on a exactement la même émotion quand on voit les yeux des personnes, soit des paroissiens, soit voilà, quand on va dans une église, dans un édifice ou une synagogue, puisqu'on a terminé une synagogue il y a pas longtemps. Voilà, donc c'est vraiment ce rapport avec l'humain et avec le client et de voir ses yeux un peu papillonner.
Aujourd'hui, j'étais
un passeur de lumière
sur RFI.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Et cette semaine, autour de la table du studio 41 de RFI, Amélie Beaucourt, Fanny Blechner, José Marigno, Alain Pilot, bonjour à tous les quatre.
Bonjour Jean-François.
Bonjour Jean-François.
Alors, mais dites-moi, Alain, je suis étonné, je croyais que vous m'aviez promis de venir avec des souliers rouges.
Et oui, mes souliers rouges, j'ai le nom de cette formation qui sublime les répertoires de leurs ancêtres québécois et cajuns, créés en 1991, et qui propose cette fois, dans son 7e album, ce qui nous lie des pépites nichées au cœur des campagnes normandes et un trésor enfoui au fin fond du Michigan.
Le baccalauréat approche, alors avec vous, Fanny, on va aider les ados à réviser leurs classiques.
Oui, enfin, ceux de Patrick, une étrange mode de terre qui revisite les grands titres de la littérature. C'est une bande dessinée qui s'adresse donc aux adolescents mais aussi aux adultes avec beaucoup d'humour.
Un coup de foudre également au menu de ce café gourmand, c'est de l'art contemporain, c'est à Paris, c'est à la fondation EDF. José, alors coup de foudre, mettez-nous au courant.
Oui, alors ici il est formellement permis de toucher, de caresser, d'effleurer bien sûr les objets.
Voilà, exposition signée Fabrice Hibert et Nathalie Talek. Mais du théâtre pour commencer, Amélie, vous êtes allée voir An Irish Story, une histoire irlandaise, un spectacle qui se joue jusqu'au 30 juin au théâtre de Belleville dans l'est de Paris et qui nous emmène entre la France, l'Angleterre et l'Irlande.
Tout à fait, Jean-François, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Kelly. Pas Kelly comme dans Beverly Hills ou Santa Barbara, elle tient à le préciser. Kelly a des origines irlandaises et elle nous embarque avec elle à la recherche d'un certain Peter O'Farrell, son grand-père, qu'elle n'a jamais connu. Ce Peter est né dans l'Irlande des années 30, en pleine période de famine et de conflit avec l'Angleterre. Il emménage à Londres avec sa femme, construit une famille, puis un beau jour, sans laisser de traces, il disparaît.
Et la petite subtilité, Amélie, c'est que la comédienne qui interprète ce personnage, qui est aussi la scénariste et la metteuse en scène de la pièce, s'appelle également Kelly.
Effectivement, Jean-François, Kelly Rivière, la vraie Kelly, si on peut dire, pas le personnage, est également une jeune interprète de théâtre d'origine irlandaise et elle non plus n'a pas connu son grand-père. Alors depuis toute petite, elle pose des questions autour d'elle, elle mène sa propre enquête, mais pas de réponse. Peter a disparu il y a déjà longtemps et tout le monde s'en fiche.
Ça me perturbait terriblement que cet homme, mon grand-père, que j'ai jamais connu, il a eu 6 enfants, il a généré beaucoup de vie. Ses enfants ont eu des enfants, qui parfois ont eu des enfants, donc ma grand-mère était arrière-grand-mère. Il a généré de la vie, il a eu une vie, et puis on n'en parle plus. Et je me suis dit, c'est triste, quoi, d'avoir quelqu'un qui a vécu, mais qui ne vit plus à l'intérieur de sa famille. Et dans la vie, ayant cherché à le retrouver réellement, J'ai fait une enquête, j'ai effectivement fait appel à un détective privé, ce que je raconte un peu dans la pièce. Je suis partie en Irlande et n'ayant pas réussi à le retrouver, je me suis dit le théâtre, c'est le moyen de le faire revivre, de lui inventer une vie. Pour moi et pour les gens, pour dire aussi, tant qu'on reste dans la mémoire des gens, on vit encore, quoi.
Cette histoire va la ronger pendant un long moment, jusqu'à ce qu'un signe du destin l'encourage à la raconter. Elle est à la maternité pour accoucher de son deuxième enfant en France et la sage-femme est irlandaise. C'est une révélation pour la jeune maman qui n'a jamais su se défaire de ses origines et c'est d'ailleurs un thème central dans la pièce.
Ma mère habite en France depuis plus longtemps qu'elle n'a vécu en Angleterre, elle garde son accent. Ma grand-mère a vécu en Angleterre aussi depuis plus longtemps qu'elle n'a vécu en Irlande, elle garde son accent irlandais. Et ça, je trouve ça assez fascinant parce que pour moi, ça raconte qu'on n'arrive jamais totalement à se départir de ses origines. Elle reste dans un roulement de R, elle reste dans une façon de déformer un petit peu la langue et je trouve ça beau. Et on a tendance à dire il faut franciser les prénoms, il faut... Mais non, gardons ce qui fait nos origines.
Rien d'étonnant donc si Kelly se met à parler anglais de temps à autre, mais que les moins anglophones d'entre vous se rassurent, mon voisin de Strapontin ne parlait pas un mot de la langue de Shakespeare et il a tout compris.
Ça me rassure effectivement. La pièce en tout cas se joue depuis 2016. Amélie, la première fois c'était à Avignon et à l'époque elle n'a qu'un tapis et un tabouret pour seuls éléments de décor.
Exactement, aujourd'hui son espace de jeu est un peu plus sophistiqué. Côté cour, une petite estrade en bois avec un siège, des livres, de quoi recréer l'atmosphère d'un appartement. Et côté jardin, un grand espace libre dans lequel Kelly joue les scènes extérieures. On reste donc sur quelque chose de simple parce qu'elle nous emmène à tellement d'endroits différents qu'il fallait qu'on puisse être transporté avec elle sans perdre du temps à changer les éléments du décor. C'est ce qu'explique d'ailleurs le scénographe de la pièce, Grégoire Faucheux.
On a dans cette forme quelque chose qui peut être assimilable au conte, hein, c'est-à-dire que Kelly est seule en scène, raconte une multitude de personnages, une multitude d'espaces. Pour la fluidité du récit, on n'allait pas s'embarquer à chercher à représenter de façon réaliste chacun des espaces. L'envie, c'était plutôt de donner quelques signes, pourquoi pas un accessoire. Après, il y a beaucoup de choses qui sont dites par le texte aussi. Et là encore, on fait confiance au spectateur qui, lui, va pouvoir projeter des choses. On est dans une forme plutôt shakespearienne du théâtre. On va juste donner quelques indices, raconter beaucoup de choses par le texte. Les espaces vont se créer juste avec ces petits indices qui sont donnés. C'est plus un espace de narration qu'un espace fictionnel.
La pièce met en scène à peu près 15 personnages. 15 personnages tous interprétés par une seule et même personne, Kelly, encore une fois. Un exemple, ici elle joue à la fois son propre rôle, mais aussi celui de sa mère et celui de son père.
Maman ? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Kelly ? Maman, j'aimerais te poser une question à propos de Peter.
Peter ?
Mon père ? Oh non, Kelly. J'aimerais savoir comment ils se sont rencontrés avec Margaret. Kelly, je suis en train de lire une biographie de Hitler. Et c'est passionnant. Oui, mais comment ils se sont rencontrés ? Ton père et ta mère ? Oh non, Michel, tu veux pas dire quelque chose ? Hein ? Ah oui. Oh non, Poupoune. Laisse maman tranquille. Tu sais bien qu'elle n'aime pas toutes ces questions. Et puis ça sert à rien de remuer le passé. Tu sais, c'est douloureux pour ta mère, elle n'a pas envie de se replonger là-dedans. Tu veux un carré de choc ? Non, papa, pas maintenant. Tu sais, moi, quand j'ai une contrariété ou que j'ai pas la réponse à mes questions, je me fais un petit carré de choc. Non, mais papa, là, c'est important. Attends-moi là, je vais chercher un petit carré de choc.
Elle a fait le choix du seul en scène pour justement raconter sa solitude face au mur auquel elle s'est heurtée en essayant de faire la lumière sur cette histoire familiale. De la même façon, elle a eu besoin de prendre un peu de distance avec la réalité en incorporant une petite partie de fiction dans son spectacle.
Du moment qu'avec mes 4 collaborateurs artistiques, parce que j'ai quand même 4 regards extérieurs qui m'ont aiguillé dans le jeu, dans la dramaturgie, dans la construction narrative du spectacle, du moment qu'on a décidé de changer les noms, parce qu'au début je disais les vrais prénoms de mon père, de ma mère, tout ça, la fiction a vraiment décollé. Ça m'a permis d'avoir vraiment encore plus de distance et c'est devenu des personnages. Et après, en improvisation, mais il y a des trucs que ma mère a jamais dit, que je dis dans la pièce, qu'elle a jamais dit, mais elle aurait pu les dire parce que ça lui ressemble, mais je tisse le fil de la fiction et du réel en même temps. C'est de l'ordre de la déformation du réel. C'est comme Kelly Russo, Kelly Rivière. Je m'appelle Kelly Rivière, le personnage s'appelle Kelly Russo, c'est 3 fois rien, mais c'est moi et c'est pas moi, quoi.
In fine, Jean-François, son but était aussi de montrer que plus une histoire est personnelle et plus elle est universelle.
Amélie Beaucourt dans le Café Gourmand de VMD.
«
José, vous êtes donc tombé, on l'a compris, sous le charme dès les premières secondes de l'exposition Coup de foudre à la Fondation EDF. Derrière le nom intrigant de cette plaisante électrocution de l'amour se cachent donc deux artistes, Nathalie Talek et Fabrice Hibert, un duo qui propose une œuvre immersive totale à une expérience unique aux visiteurs.
Oui, il devient le protagoniste de nouvelles histoires à vivre, d'une infinité de possibles, de comportements et de désirs. Les deux artistes cassent les codes de l'art et les habitudes muséales. Ici, on l'a dit tout à l'heure, il est formellement permis de toucher, caresser, effleurer, palper les œuvres pour mieux les percevoir, entrer en résonance avec des objets de cette exposition.
C'est une salle de bal. Sur les murs, il y a plein de vêtements, plein d'objets qu'on peut échanger avec nos propres vêtements, se changer pour danser. C'est des vêtements, pour ma part, qui correspondent à mes héros personnels, qui peuvent être le Père Noël, le Bibin d'homme, le squelette qui danse.
Alors pour moi, comme on est invité dans cette exposition à produire des propositions autour des émotions, j'en ai profité pour produire des abris émotionnels qui prennent la forme de vêtements. Donc on peut s'en emparer. Ils sont chauds, ils sont très couvrants et ils isolent. En même temps qu'ils mettent dans une sorte de sentiment de sérénité. C'est une rencontre permanente avec les œuvres, avec les objets, avec les vêtements et avec les autres.
En fait, là, c'est l'endroit où on puisse se poser et se rencontrer davantage, être un peu en état un peu de confort, un peu comme ça, dans ces petites cabines qui sont signalées par les dessins. Les dessins ont généré des murs qui ont forme des petites cabines dans lesquelles c'est très confortable, on peut s'asseoir et discuter et approfondir la relation.
Et le visiteur devient non plus le simple spectateur, mais s'improvise donc performeur tout au long d'une déambulation extrêmement riche en émotions.
Oui, on vient de l'entendre. Au rez-de-chaussée, on entre dans l'exposition comme dans une salle de bal entourée de cabines d'essayage. Vous y découvrez des vêtements excentriques et ludiques, prêts à être portés pour déclencher des sensations. Ensuite, contempler et pourquoi ne pas expérimenter l'extase. Suivez-nous, Jean-François. Mmh. Ça se passe au premier étage où les deux artistes mettent en scène leur grand tableau surréaliste à la manière des cadavres exquis, un dispositif convivial et vivant, ouvert à la surprise.
Proposer quelque chose de totalement décomplexé, donc de faire remonter l'enfance, mais pour produire des choses qui peuvent être aussi un peu tragiques, au travers de ce qui est ici au premier étage, sous le vocable de l'extase. Et pour cette extase, on a choisi le cadavre exquis, qui était la forme parfaite, où l'un suivait l'autre, l'un recouvrait l'autre, c'était sans dessus, dessous, et voilà, c'est ce qui nous a permis de faire ce très grand tableau à 80, et en même temps de proposer pour chacun de nous des espaces, oui, un peu retirés, un peu soit de méditation, soit de confort, puisque sur cette idée d'exposition autour des émotions, on voulait proposer un spa d'art où on peut se poser pour regarder les choses. C'est notre amour de l'art aussi qui a produit tout cet objet.
On est toujours en immersion, en permanence en immersion, soit même par le son, quelquefois par le son et par le silence, qui a autant de qualité.
De l'inattendu aux métamorphoses, c'est la sidération à tous les étages.
Oui, la scénographie est destinée à provoquer toutes sortes de réactions, étonnement, choc, plaisir, peur, joie et coup de foudre. Donc au sous-sol, le visiteur pourra croiser dans un jeu de cache-cache les avatars de Fabrice Hibert et Nathalie Talek, projetés en 3D, en trois dimensions, entre les couloirs et les portes.
C'est une salle sombre dans laquelle nous apparaissons chacun notre tour, on ne se croise jamais. On apparaît, on disparaît comme un éclair, comme un coup de foudre.
C'était aussi pour prolonger l'idée un peu générale du coup de foudre. Donc quelque chose a lieu, disparaît, on est dans la fugacité, dans quelque chose de très furtif aussi. Et jamais au sous-sol, il n'y a de rencontre réelle.
Nous sommes tous des grands enfants et on aimerait bien le rester le maximum. Mais Nathalie et moi, on se retrouve très fréquemment là-dessus en fait. On n'a pas de gêne là-dessus, on n'a pas d'âge et on rêve toujours et on fait en sorte que les gens puissent rêver avec nous.
Il reste donc intact l'enfance, la vitalité de la création, et avec eux, on a un peu l'impression quand même, José, que tous les scénarios sont possibles.
Oui, ce sont deux êtres de plaisir, deux voix qui révèlent le non-dit de la fable.
En fait, tout est toujours possible, en fait. Contrairement à l'art contemporain ou l'art moderne, c'est pas des espaces fermés, c'est des espaces en permanence ouverts. Que l'expo devienne un lieu d'expérience pour tout le monde et qu'il soit complètement vrillé, déformé, transformé, en fait, on veut pas que les choses soient bloquées.
Ça, le courant passe totalement.
Oui. Les courts-circuits, la surchauffe, peut-être même plus un peu.
Bien plus.
Voilà, coup de foudre exposition, donc signé Nathalie Talec et Fabrice Hibert, à voir et à vivre. Donc c'est jusqu'au 20 octobre à la Fondation EDF à Paris. Merci José. Allez, un peu de classique, donc avec vous, Fanny, de la littérature classique, et puis d'ailleurs peut-être pas si classique que ça.
Oui, en effet, c'est une bande dessinée au ton assez décalé, intitulée « Les classiques de Patrick ». 8 avrissons présentés. L'auteur Delphine Panic a réuni ici des chroniques, d'abord publiées dans la revue Topo.
C'est les œuvres que je préfère, que j'aime. Ils m'ont laissé toujours très libre dans le choix des œuvres. Et puis, évidemment, je pense à un public adolescent, quand même. Donc, à chaque fois, je réfléchis, j'essaie de trouver une œuvre pas trop facile non plus. Disons, je me bloque pas à ce niveau-là, quoi. Mais des œuvres qui puissent parler aux adolescents d'une manière ou d'une autre, en fait. Voilà, ce que moi, je considère être des classiques. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui diront que Agatha Christie, c'est pas du classique.
Et ben pas moi, Agatha Christie, c'est vraiment du classique. Quels autres auteurs est-ce qu'on rencontre, Fanny ?
Flaubert, Homère, Virginia Woolf, Colette, Rabelais, Dostoïevski, encore Duras. Vous l'aurez remarqué, Jean-François, il y a autant d'auteurs hommes que femmes.
Mmh. Je respecte une mixité très stricte. Donc voilà, 1/2 c'est un homme et 1/2 c'est une femme. Parce que j'en ai marre qu'on dise que dans les grands auteurs de la littérature, il y a que des hommes. C'est pas vrai du tout. Moi, j'ai une liste d'auteurs ou de livres dont j'ai envie de parler et il y a autant de femmes que d'hommes. Enfin, c'est pas du tout compliqué pour moi de trouver des livres de femmes à chroniquer là-dedans. Au contraire.
Et ce qu'il faut ajouter aussi, Fanny, c'est que ces différents chapitres, eh bien, ils sont reliés entre eux par une certaine logique.
La logique de Patrick. Ce petit personnage qui donne son titre à la bande dessinée, qui sert un peu de voix off, on dirait un petit bonhomme de neige, mais en sable. Patrick s'est écrit Q-U-E à la fin, et ce n'est pas anodin.
Lui, donc c'est une petite motte de terre qui est sans âge et sans sexe. Enfin, c'est une motte de terre, quoi. Donc, il est pas genré. Donc, ça, j'en parle aussi. Et puis, il y a une partie, par exemple, il y a la partie sur Virginia Woolf, bien sûr, qui a beaucoup parlé de ça. Donc, c'est vrai que j'insiste un peu sur ces questions de genre et sur pourquoi, avant le 19e, 20e siècle, il y a moins de femmes qui écrivent. Voilà, j'aborde ces questions puisque, évidemment, je m'adresse à des adolescents, filles et garçons, et les filles n'ont pas à être mises de côté sur ce sujet-là. Pour chaque œuvre que je traite, j'essaie de mettre en avant quand même une espèce de thématique, soit philosophique ou politique ou autre, qui me paraît importante à traiter pour des ados.
Ça semble bien sérieux, hein ?
Oui, sauf qu'en fait, pas du tout. Bien sûr, sur le fond, on apprend des choses à la fois, l'œuvre est résumée, il y a des éléments de contexte historique, biographique, mais surtout, ce petit Patrick apporte beaucoup d'humour.
Patrick, c'est le narrateur. Il présente les auteurs, il présente les œuvres, et puis, il fait des blagues aussi, quand même. En fait, je veux justement lutter contre une espèce de lassitude ou de manque d'intérêt des ados pour les classiques de la littérature, parce que moi-même, j'ai le souvenir de quand j'étais collégienne et que c'était toujours présenté de manière tellement ennuyante. Et voilà, donc j'essaie de mettre beaucoup d'humour là-dedans. Par exemple, Madame Bovary, pour moi, c'est un livre qui est extrêmement drôle, où il y a énormément de choses très... Alors, c'est un humour qui peut être un peu dur, très ironique, mais c'est extrêmement drôle. Et je pense pas qu'on mette ça en avant dans les programmes du collège, du lycée, cet humour-là.
Alors, pour vous donner un exemple, voici comment Patrick nous parle d'Emma Bovary. Emma habite donc avec son père, un agriculteur aisé, mais bouseux, dans un bled pourri du fond de la Normandie. Elle n'aime pas trop cultiver des cucurbitacées et autres convolvulacées, car elle préfère lire des romans d'amour. En fait, c'est une no-life, fourrée toute la journée derrière son ordinateur. Là, le mot est barré et remplacé par livre.
Bon, pas très classique, hein, effectivement, comme façon de présenter un chef-d'œuvre littéraire.
Bon, Rabelais, forcément, je parle beaucoup du langage. Puis j'explique que la langue, elle bouge, qu'elle est mouvante, qu'elle évolue. J'en profite pour parler du langage des ados, qui bouge aussi, qui est quelque chose de mouvant. Et leur expliquer que la littérature, c'est pas forcément quelque chose, une langue très... voilà, académique, propre, et que ben on a le droit d'inventer des mots, on a le droit de mettre des mots familiers, c'est un amusement aussi la langue.
Oui, on peut dire donc que la langue française est un peu désacralisée.
Et ça passe aussi par le visuel utilisé par Delphine Panic, puisque c'est un comble, même les dieux sont désacralisés.
Je me suis pas mal posé la question de savoir comment les représenter. C'est pas évident de représenter des dieux. Dans l'Iliade, ils ont forme humaine, mais en même temps c'est des dieux, en même temps ils peuvent disparaître, ils peuvent changer de place. Donc je me suis pas mal posé la question, puis j'ai décidé de les représenter un peu sous forme de Barbapapa, là, dans les nuages. Donc à la fois ils ont un côté un peu humain, et puis en même temps ils sont vaporeux, ils se mélangent des fois un peu avec les nuages, puis ils sont... J'avais envie qu'il soit drôle en fait aussi, parce que dans l'Iliade, tout le jeu entre les, ce qui se passe entre les dieux, c'est très drôle. Ils n'arrêtent pas de se faire des petits coups les uns les autres, de essayer de faire gagner l'autre, etc. Donc j'avais envie aussi qu'ils soient représentés de manière assez rigolote, ces dieux-là. Parce qu'ils sont rigolos dans l'œuvre.
Plus globalement, les expressions visuelles des personnages donnent aussi régulièrement à sourire. Puis il y a un véritable travail sur la couleur. Les pages où Patrick est seul en scène, par exemple, sont dans des tons jaunes et bleus.
Les classiques de Patrick de Delphine Panic, c'est paru chez Gallimard Bande Dessinée. Merci Fanny.
Sur le bout du banc, mamie m'appelle. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Sur le bout du banc, mamie m'appelle. Sur le bout du banc, mamie m'attend.
Le fils du roi s'en va chassant. Sur le bout du banc, mamie m'attend.
Le fils du roi s'en va chassant. Sur le bout du banc, mamie m'attend.
Le bout du banc de Mes souliers sont rouges, sur leur nouveau disque Ce qui nous lie. Groupe qui n'en est pas son premier coup d'essai, alors.
Souvenez-vous.
Quand plus rien ne va, que tout ne va pas. Quand plus rien n'est droit, que tout est de guingois.
Quand plus rien ne va, que tout ne va pas. Quand plus rien n'est droit, tout est de guingois.
On peut aller dans la forêt et avec des branches coupées se construire une jolie cahute, jouer un petit air de flûte ou bien faire une petite.
Quand plus rien ne va en 2000, Mes souliers sont rouges qui révèlent ces petits gars. Mais Jean-François, la turlune n'est autre qu'une forme d'expression musicale folklorique québécoise qui consiste à chanter des onomatopées sur des airs traditionnels de violon.
Bien sûr.
C'est Wikipédia qui me l'a dit.
18 ans plus tard, quelle est donc la démarche de ce groupe? Denis Lefrançois, le contrebassiste, est l'un des chanteurs des souliers.
En fait, le groupe est né de la découverte de la musique traditionnelle québécoise il y a 27 ans maintenant. Et tout le monde le sait, la musique québécoise, les Québécois viennent de France, principalement du Perche, de Normandie, un peu de Bretagne. Et en fait, le projet de Gullivan et le projet qu'on défend aujourd'hui, c'est de revenir aux sources de nos premières amours d'il y a 27 ans. Et donc, grâce à une association qui s'appelle La Lour et qui travaille à côté de chez nous à Vire, dans le Calvados, et c'est une association qui est spécialisée dans le collectage auprès des anciens. Ce sont des gens qui, depuis les années 60-70, vont voir les anciens chez eux avec des magnétophones et leur font chanter les chansons que eux chantaient quand ils étaient gamins, voire que les parents ou les grands-parents, arrière-grands-parents chantaient. Et grâce à ce travail, on a pu effectivement découvrir, retrouver des chansons chantées par nos ancêtres qu'on a remises au goût du jour à notre sauce soulier, c'est-à-dire qu'on a très peu changé les textes, très peu changé les musiques. Par contre, les arrangements et la patte musicale, c'est les souliers et on retrouve bien les souliers là-dedans.
M'en allant faire l'amour, j'ai perdu ma chemise.
M'en allant faire l'amour, j'ai perdu ma chemise.
Oh, ma chemise qui était bien mise, ma cravate qui était si bête, et mon gilet qui était coquet, et mon chapeau.
Poil de chameau, Mes souliers sont rouges sur RFI, composition recueillie en 2003, donc dans le Calvados, département normand, pour laquelle ils se sont permis de changer la mélodie en la mettant sur un mode mineur.
Et si cet opus fait la part belle au vieux répertoire normand, Jean-François, deux exceptions, la québécoise que nous avons écoutée au début et en introduction du disque, une chanson recueillie dans les années 30 auprès de John Caddo dans le Michigan aux États-Unis par le fameux ethnomusicologue, folkloriste, musicologue et collecteur de musique américain Alan Lomax.
Effectivement, c'est une chanson qui a été collectée en 1938, je crois. Et quand on entend cette version-là, c'est vrai que c'est assez impressionnant. On entend un côté indien, amérindien. On imagine très bien les tambours et une danse d'indien avec ces tambours-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a essayé, dans notre version actuelle, on a essayé de garder ces tonalités un petit peu. Et pour d'autres chansons, on a fait la même chose. C'est-à-dire qu'on a même essayé de garder quelques faussetés pour en faire des chansons modales. Et pour essayer de garder le côté un peu authentique. Et c'est vrai que pour cette chanson, là, Non que j'aime donc, c'est particulièrement saisissant.
Ils ont fait mettre la table, ils l'ont fait mettre tout
ont fait mettre la table, ils l'ont fait mettre tout du long. Non, que j'aime donc la boisson sans cesse.
Sur le 7e album de Mes souliers sont rouges, ce qui nous lie, non, que j'aime donc. Mes souliers sont rouges actuellement en tournée, qui passe le 22 mai par le Café de la Danse à Paris et le 5 octobre au Zénith de Caen pour des spectacles qui rassemblent trois générations confondues, ce qui ne surprend pas Denis Lefrançois.
C'est pas très étonnant. Là, la tournée qu'on a reprise depuis l'année dernière, on voit des parents trentenaires venir avec leurs enfants qui ont l'âge qu'eux-mêmes avaient quand ils venaient nous voir il y a 15 ans ou 20 ans avec les parents. Moi, j'ai une anecdote qui me fait monter les poils à chaque fois. Je me souviens d'un concert, c'était il y a une quinzaine d'années, où je vois trois petites gamines quasiment au bord du plateau, 12, 13, 14 ans, qui sautaient dans tous les sens, qui connaissaient les chansons par cœur. Ça fait plaisir de voir des jeunes venir nous voir, nous écouter, danser avec nous. Et à la fin du concert, comme d'habitude, on va voir les gens, on va communiquer, on va parler avec les gens. Et là, je retrouve mes trois petites copines, là, et je vais leur dire bonjour, ça a l'air bien, vous êtes contentes et tout. Bah oui, et puis on est très très contentes parce que aujourd'hui, c'est les 88 ans de mamie et on lui a offert le spectacle pour ses 88 ans. Et je vois une dame assise dans son fauteuil derrière et moi je vais la voir. Alors là, rien que de le dire, ça me remonte des émotions assez terribles. Et cette mamie de 88 ans me dit: je ne vous connaissais pas, merci les petites filles. Par contre, cette chanson-là que vous avez chantée, c'est ma grand-mère qui me l'a apprise. Donc voilà, ce qui nous lie, je pense que c'est le titre de l'album, il est complètement adapté à ce qu'on vit et à ce qu'on fait vivre aux gens.
Arrive une vieille grand-mère qui crie voleur de prune.
Arrive une vieille grand-mère qui crie voleur de prune.
Je descends d'Ima culbute et j'y fais voir ma lune d'année.
C'est un hasard ou vous avez des souliers rouges aujourd'hui ou c'est ce qui vous lie en fin de compte?
Alors c'est pas un hasard parce que en plus ces chaussures là c'est les chaussures qu'on a sur scène. Ce sont des chaussures très confortables et comme je savais que j'allais sans doute marcher un petit peu en venant vous voir aujourd'hui, j'ai mis ça. Et puis pour qu'on me reconnaisse à la sortie du train.
Merci infiniment Denis.
C'est moi, merci beaucoup, à bientôt.
Les prunes, mes souliers sont rouges, l'album s'intitule Ce qui nous lie et le groupe sera en concert le 22 mai au Café de la Danse à Paris et le 5 octobre au Zénith de Caen.
Laissez-moi aller jouer.
Elle allongea la main pour en avoir quelques-unes.
Elle allongea la main pour en avoir quelques-unes.
La vieille, ce n'est pas là tes prunes, allez.
Laissez-moi aller jouer.
Merci Alain, merci aussi à Fanny, Amélie et José. Le journal juste après la pause et à lundi, vous m'en direz des nouvelles.
La vieille, ce n'est pas là tes prunes. Oh,
ce sont les deux étoiles qui accompagnent la lune, allez. Laissez-moi aller jouer.
Faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.